Nous venons de l'entendre, frères et sœurs. Ce sont les premiers pas de l'Église et ils sont singulièrement émouvants. Nous découvrons une Église déconcertée, un peu apeurée, incapable même de reconnaître son Seigneur. Pire, elle est comme brisée dans ses affections et son élan missionnaire. Et par conséquent, pour une part, la communauté s'est disloquée. Mais voici que se lèvent les promesses de l'aube. À travers la rencontre entre le ressuscité et les disciples, nous est livrée une image de l'Église telle que le Seigneur la voit, la désire. Et cela concerne chacune, chacun d'entre nous, quel que soit notre âge, notre vocation spécifique éventuelle. C'est les promesses de nos baptêmes qui nous rassemblent. Et c'est au nom de notre baptême que nous sommes invités à méditer cet évangile. Prenons le temps de le méditer en l'actualisant. Tout d'abord, sommes-nous sensibles à cette image du pécheur dans la nuit qui, au bout de sa nuit, au petit matin, revient sans rien, malgré toute la peine qu'il s'est donnée. Et nous pouvons avoir à l'esprit certaines images transmises par les médias qui évoquent la situation de l'Église en Europe occidentale. De fait, d'énormes efforts sont déployés, les bonnes volontés se multiplient, s'acharnent courageusement. Et pourtant, domine parfois le sentiment que les résultats sont minces, surtout si nous tombons dans ce terrible piège qui est la tentation d'évaluer à la grille du quantitatif. Et surtout, méfions-nous de tomber dans la désolation. En effet, sans nier rien de nos éventuelles faiblesses et de nos manques de discernement, tout l'évangile de ce matin s'insurge contre pareille culpabilisation. En effet, si nous réfléchissons à contrario, cela signifierait qu'au jour du succès, tout dépendrait de nos seuls efforts, de notre seul mérite. Or, on sait bien, c'est un grave contresens théologique et spirituel. Alors, revenons à l'heure des promesses de l'aube. Voici que Jésus apparaît sur le rivage. Plus encore, il se tient sur le rivage. Et Jean nous explique que les apôtres ne le reconnaissent pas. Comment pourraient-ils le reconnaître? Et ce nouveau récit d'apparition nous permet de mieux comprendre ce que résurrection veut dire. Le mot « apparition » ne doit pas nous tromper. Jésus ne vient pas d'ailleurs pour aller vers autre part. Il est là. Il se rend présent. Il se rend présent à ses disciples comme il se rend présent à chacune et chacun d'entre nous. Souvenons-nous de son mot « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Il est invisible, mais non pas absent. Et lors des Christophanies, c'est-à-dire des manifestations du Christ ressuscité, il se rend visible, et pour reprendre la traduction exacte du mot grec, il se donne à voir. Donc, cet apparent étranger invite les hommes qui ont travaillé toute la nuit à jeter à nouveau leur filet. Et contre toute attente, les disciples obéissent. Et frères et sœurs, à cet instant, nous est livré l'un des secrets de l'Église. Alors même que les disciples n'ont pas reconnu Jésus, la présence du Seigneur ressuscité transforme leur travail et le féconde. Déjà, tout est dit de la vie de l'Église. Il faut que nous puissions, là où nous sommes, assumer nos responsabilités, nos missions, notre vie chrétienne, en étant capables en même temps, humblement, d'accueillir l'inattendu de Dieu. Observons également qu'il faut peu de mots pour dire la foi d'Église. Ce qu'on appelle le kérigme tient en une seule phrase. Dieu, en son Fils Jésus, s'est fait l'un de nous. Il est mort, a été crucifié, est ressuscité d'entre les morts et nous donne de vivre de son esprit. Oui, le kérigme tient en peu de mots. Mais nous voyons bien qu'il est infiniment plus difficile pour chacune, chacun d'entre nous, et parfois nous le mesurons avec douleur. Oui, il est infiniment plus difficile de laisser transparaître dans notre vie la présence du ressuscité. Pour accueillir la présence du ressuscité, voyons la pédagogie de Jésus dans son dialogue avec Pierre. Tout d'abord, il le prend à part. C'est un dialogue singulier, personnel. Et ce matin, l'Église nous invite, dans une perspective spirituelle, à nous mettre à la place de Pierre, afin de vivre cette rencontre. Comme à Pierre, Jésus pose la question à chacune, chacun d'entre nous. M'aimes-tu ? M'aimes-tu vraiment ? Et bien sûr, frères et sœurs, comme Pierre, nous sommes quelque peu gênés parce que nous mesurons nos parts éventuelles de trahison. Et à cet instant, reprenons le point précédent. On peut parfaitement dire que nous savons qui est Jésus le Christ, mais ne pas l'exprimer par notre vie. Nous savons que Pierre, au moment de l'arrestation, près d'un feu de braise, interrogé par trois fois, dira « Je ne connais pas cet homme ». Mais si nous reprenons la grande tradition biblique, on peut dire avec nos lèvres « Je le connais », mais que le cœur soit loin du Seigneur. Et à cet instant, acceptons de réentendre la grande tradition de l'Église, qui nous dit que nous ne pouvons pas d'une part honorer le Christ et d'autre part ignorer le pauvre, quelles que soient les formes de sa pauvreté. C'est saint Jean Chrysostome qui disait « Lorsque tu décores l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse, car ce temple-là, ton frère, a plus de valeur que l'autre. » Et de même, Paul VI, à la fin du Concile, expliquait « Nous nous rappelons qu'à travers le visage de tout homme, spécialement lorsque les larmes et les souffrances l'ont rendu plus transparent, nous pouvons et nous devons reconnaître le visage du Christ. » Ce qui est magnifique dans la suite de l'Évangile, c'est que Pierre laisse parler son cœur. « Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et c'est alors que tout se déclenche pour lui. Malgré ou à cause de la conscience qu'il vient de prendre de son péché, de l'amour dont il est aimé, Pierre est saisi par le Christ et sa vie en est transformée. Une vie totalement transformée, la preuve, c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture, extrait des Actes des Apôtres. En effet, celui qui est timoré est devenu courageux. Le lâche est devenu audacieux. Et vous pourrez, frères et sœurs, reprendre ce court passage des Actes des Apôtres. En particulier, Paul y déploie un élément essentiel dans l'histoire de l'humanité que décrira merveilleusement, philosophiquement et théologiquement saint Paul, c'est ce qu'on appelle la liberté de conscience. En effet, Pierre dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et saint Paul écrira dans la première aux lettres aux Corinthiens, chapitre 10, verset 29, « Quelle conscience extérieure à la mienne jugera de ma liberté ?» Phrase extraordinaire qui transforme puissamment la pensée. Oui, ce Christ ressuscité vient solliciter personnellement chacune, chacun d'entre nous. M'aimes-tu vraiment ? Alors, frères et sœurs, nous voyons bien que ce qui est réclamé, c'est notre humilité et notre lucidité sur nous-mêmes. Et il nous faut comprendre que cet évangile nous invite à une dimension missionnaire. En effet, l'évangile se conclut par ces mots « Suis-moi ». Alors puisse, frères et sœurs, cette Eucharistie dominicale en ce temps pascal nous permettre de goûter la présence merveilleuse du ressuscité qui nous invite à le suivre et être des témoins rayonnants de la joie de croire.